Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. La Chine consolide à grands pas un dispositif à même de contenir et de traiter l'épidémie de coronavirus. Commentaire du spécialiste Patrick Zilberman. Et témoignage d'un ressortissant français habitant la ville de Wuhan. Aux États-Unis, les défenseurs de Donald Trump, attendus à la barre cet après-midi, œuvrent à l'accélération de la procédure de destitution. Précision de Grégory Philips. En France, des avocats en Assemblée Générale en lutte contre la réforme des retraites et puis une bulle éco signée ce samedi Catherine Pétillon consacrée à la reconnaissance faciale que n'hésitent pas à promouvoir et gouvernement et industriels. Mesures drastiques et de grande envergure en Chine. Dans les bus, les avions et les trains, le régime ordonne de transporter immédiatement vers un centre médical tous les voyageurs présentant des symptômes de pneumonie. La Commission nationale de la santé préconise, elle, de multiplier les points d'inspection et de confiner ainsi 56 millions d'individus. Les autorités consolident un dispositif d'une ampleur considérable et de tirer ainsi des enseignements des crises sanitaires du passé proche, notamment le syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, comme le soulignait ce matin au micro de Caroline Brouet, Patrick Zilberman, historien de la santé et spécialiste des épidémies.
À ce moment-là, si vous voulez, la Chine de Pékin s'était singularisée par un mensonge d'État visant à cacher, y compris à l'OMS, les progrès de l'épidémie. Donc il reste une certaine méfiance que vous voyez très bien transparaître dans la presse de Hong Kong, par exemple, ou dans la presse de Singapour. Et donc le gouvernement chinois est, comment dire, observé à la loupe pour voir si véritablement il cache quelque chose ou non.
3 mois avaient été nécessaires en 2003 pour que les autorités reconnaissent une crise sanitaire majeure. Là, vous évoquiez 3 semaines, donc on peut considérer qu'il y a du progrès.
Il y a du progrès, exactement. Mais on voit aussi, si vous voulez, que d'emblée, l'Imperial College, par exemple, qui est un centre d'études des maladies contagieuses et épidémiques et qui conseille l'OMS, avait, dès le 20-22 janvier, complètement ruiné le niveau de mortalité déclaré par le gouvernement chinois. Au lieu des quelques centaines de cas, l'Imperial College parlait déjà de 4000 cas. Alors c'était du calcul, c'était pas des cas constatés, mais si vous voulez, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose là qui se joue et qui s'est retrouvé à Genève mercredi et jeudi dernier dans le comité d'urgence de l'OMS. Il y a des éléments diplomatiques qui rentrent en ligne de compte dans le discours qu'on peut entendre sur cette épidémie.
En l'état, 3 cas de coronavirus ont été recensés en France, selon la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Le consulat de France en Chine est, lui, en train de contacter les Français habitant à Wuhan, foyer de l'épidémie du coronavirus. En témoigne Jackie Rimbaud, joint par téléphone par notre correspondante en Chine, Dominique André.
Ce matin, en fait, on a eu ces informations du consulat, comme quoi on allait peut-être être évacué en bus vers une autre ville de Chine. Il faut donc s'inscrire et puis nommer les personnes qui sont susceptibles de partir. Ils sont en train de faire un peu l'état des lieux de tout ça. Et puis après, la décision sera d'être à Changsha, peut-être rester en quarantaine, je ne sais pas encore. C'est à environ 2 à 3 heures de véhicule. Ça fait 300 kilomètres, je pense. Après, on aurait le choix, soit de rester à Changsha ou alors de partir là où on voulait. Hein. Donc beaucoup voudraient rentrer en France. Il y en a certains hier qui étaient assez nerveux de devoir rester ici à Wuhan. Donc je pense que dans la majorité, ceux qui avaient vraiment envie de partir vont être contents de partir.
Et vous, est-ce que vous pensez partir ?
Je ne sais pas encore. Je me pose la question, à savoir un petit peu les conditions dont on va être envoyé là-bas et comment ça va se passer, parce que bon, c'est pas le tout de changer d'endroit. Changsha, c'est pas non plus très loin de Wuhan, donc je ne sais pas du tout. En ce qui me concerne, et pour les Français qui sont là, que je pense que tout le monde a pris les précautions, personne n'est malade, et puis il faut rassurer aussi les familles en France, hein, que pour nous, en ce qui nous concerne, on fait attention.
Est-ce que vous communiquez entre vous, les Français par WeChat, par exemple, la messagerie chinoise?
Oui, tout à fait. On a des groupes WeChat. Donc, le consul général a regroupé tous les Français qu'on savait à Wuhan sur un groupe. Et donc, on a les informations en temps et en heure. Oui.
500 Français sont officiellement recensés par le consulat à Wuhan, où un deuxième hôpital de campagne de 1300 lits va être construit d'ici le 17 février. L'épidémie de pneumonie virale d'origine inconnue a déjà tué 41 personnes, infecté près de 1300 autres personnes en Chine selon un dernier bilan. 4 cas répertoriés en Australie. État d'alerte maximale à Hong Kong. Aux États-Unis, la suite du procès en destitution de Donald Trump, c'est l'affaire ukrainienne. Ce coup de téléphone passé au président Zelensky en juillet juillet 2018 en vue d'obtenir des informations compromettantes sur un rival politique, en l'occurrence Joe Biden. Hier soir, fin de la prestation, des représentants démocrates qui pendant 3 jours ont présenté aux 100 sénateurs transformés en jurés leurs arguments pour la destitution du 45e président américain. Aujourd'hui, c'est au tour des avocats de Donald Trump de donner la répartie, leur stratégie avec à Washington Gregory Phillips.
Comme l'accusation démocrate, l'équipe de défense de Donald Trump dispose maintenant de 24 heures pour présenter son argumentaire. 8 heures environ ce samedi, une pause dimanche, puis normalement 8 heures lundi et la même chose mardi. Mais les avocats du président ont imaginé une autre stratégie. Ils pourraient refuser de répondre point par point aux mises en accusation des démocrates et lors de leur grand oral devant les sénateurs, se contenter de délégitimer cette procédure d'impeachment, arguant qu'elle est partisane, anticonstitutionnelle. Hier, sur Twitter, Donald Trump se plaignait aussi que ses défenseurs aient à prendre la parole un samedi après-midi, alors que personne ne regarde la télévision, dit le président, qui s'y connaît en audience télé. L'idée de la Maison-Blanche, c'est donc d'accélérer au maximum la procédure, de convaincre les 53 sénateurs républicains qu'il n'y a pas besoin d'entendre de témoins et de boucler l'affaire le plus rapidement possible par un vote du Sénat et sans doute l'acquittement de Donald Trump, peut-être dès le milieu ou la fin de la semaine prochaine.
En France, la réforme des retraites, les avocats toujours mobilisés dans les cortèges hier tiennent en ce moment même une assemblée générale et débattent des propositions d'Édouard Philippe. Le Premier ministre qui les a reçus jeudi soir leur a assuré qu'ils bénéficieront d'un abattement de 30% comme l'ensemble des indépendants pour compenser la hausse annoncée des cotisations. Estelia Raez, présidente du syndicat des avocats de France, c'est Anne-Laure Jumet qui l'a rencontré hier dans la manifestation parisienne.
Le communiqué de presse d'Édouard Philippe est mensonger. Il y aura une hausse des cotisations, une baisse des pensions de retraite et il n'y aura pas d'amélioration de la situation des avocats s'ils rentrent dans le régime universel, contrairement à ce qu'il affirme. On nous promet une compensation qui est très floue, qui n'est pas chiffrée et qui peut être modifiée chaque année par la loi de finances. Donc en fait, on habille Paul pour déshabiller Jacques, on augmente nos cotisations, ça c'est certain et c'est dans la loi, et on nous promet, et ça c'est pas dans la loi, une baisse de la CSG.
Venons-en à ce pacte social de la direction de Cora, refusé par 1000 salariés selon la CGT, car toujours selon la CGT, il conduirait à la suppression de 1077 emplois. Aucun commentaire de la direction jusqu'alors. 3 syndicats, CFTC, FO et CFDT l'ont signé, ce pacte, cet accord, contrairement à la CGT et à la CFE-CGC. Une certitude, il prévoit d'introduire plus de flexibilité et de polyvalence dans les postes de plusieurs secteurs, l'épicerie, le secteur non alimentaire et les caisses. Et qui plus est, l'entreprise en est à 2 plans sociaux en 3 ans. Julien Aquilina est l'un des représentants de la CGT.
Depuis des années, on dégrade notre outil de travail. Et aujourd'hui, en fait, les salariés se sont rendus compte que le commerce, enfin, on nous met le travail du dimanche, on nous divise notre participation aux bénéfices par 3,6. Enfin, il y a plein de choses aujourd'hui qui font que les salariés se disent le commerce, c'est plus possible, il faut vite partir. C'est le flux client qui va gérer la charge de travail, quoi. C'est plus un contrat horaire semaine comme on avait l'habitude jusqu'à aujourd'hui. Et après, ça va être de la polyvalence. Alors que chacun avait son poste de travail. Maintenant, il va pouvoir aller un petit peu de partout. S'il y a des avancées sociales, on pourra signer, bien entendu. Mais si on nous enlève une main pour nous donner un doigt, non, on ne sera pas signataire.
Des propos recueillis par Cédric Hermel. Et s'il s'agissait justement de prendre de large et de rompre avec les rugosités d'un certain nombre de secteurs d'activité en reconsidérant son rapport à la nature. Depuis quelque temps, la permaculture est en vogue et elle tient salon à Paris. Il s'est ouvert hier, porte de la Villette. C'est un reportage de Diane Berger.
Autour du stand de François, plusieurs dizaines de personnes mettent les mains dans la terre. Elles apprennent à semer.
Alors, du coup, on va prendre un petit godet. Tac, c'est très compliqué, c'est un bac plus 12. Hein, voilà. Donc en gros, le principe, c'est les petites graines, il faut vraiment qu'elles restent en surface. Et les grosses graines, il faut vraiment qu'elles les entourent parce que le but, c'est qu'elles restent vraiment en contact avec le terreau.
Lui-même a quitté la vie de citadin il y a 10 ans pour lancer avec sa compagne une micro-ferme en permaculture dans l'Yonne.
Alors, on s'en rend bien compte quand même qu'il y a beaucoup moins d'insectes qu'avant, il y a beaucoup moins d'oiseaux, il n'y a plus de vie dans le sol, etc. Et les jeunes, ils en prennent conscience. Là, ça y est, on le sait qu'il y a un problème, qu'il faut qu'on change notre mode de vie. Et la permaculture, ce qu'elle propose, c'est voilà, de remettre les pieds sur terre, de reprendre goût à la vie et à la patience, à l'observation, de travailler en relation avec la nature et surtout pas lutter contre.
Apprendre à cultiver son jardin tout en respectant la nature, c'est l'aspiration de beaucoup des visiteurs du salon. Marina, quarantenaire parisienne, réfléchit, elle, à une reconversion professionnelle.
J'ai vraiment envie de redévelopper une activité liée à la nature et végétaliser la ville. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités aussi à Paris autour de la permaculture, de l'agriculture biologique et puis la nature, quoi.
En attendant un projet plus concret, elle achète quelques graines de plantes aromatiques pour s'essayer doucement la permaculture depuis son balcon.
Et le salon de la permaculture à Paris, c'est jusqu'à lundi.
La bulle économique, Catherine Pétillon.
Et cette bulle éco est consacrée à la reconnaissance faciale, alors que gouvernement et industriels poussent à davantage de développement.
Expérimenter la reconnaissance faciale est nécessaire pour que nos industriels progressent. Voilà ce qu'expliquait cet automne le secrétaire d'État au numérique, Cédric Haut. Il faut dire que l'innovation et le développement de marchés sont désormais, avec la sécurité et le maintien de l'ordre, au cœur des arguments avancés par le gouvernement pour pousser et encourager les développements de cette technologie. Dans le même temps, dans la société civile, les demandes de moratoire, voire d'interdiction, se multiplient. Toutes soulignent les dangers et les bouleversements éthiques et sociaux que suscite la reconnaissance faciale. Alors rappelons d'abord de quoi il s'agit. En résumé, c'est une technique pour reconnaître de façon automatisée une personne à partir des caractéristiques de son visage, même si en fait l'expression recouvre différents types de technologies et d'utilisation. Dans certains cas, cela sert à vérifier l'identité de quelqu'un, en comparant son image avec celle qui est dans son passeport ou son téléphone par exemple. C'est ce qui est utilisé dans certains aéroports, comme à Paris, mais aussi par des banques pour sécuriser l'accès aux comptes. C'est aussi la technique du programme gouvernemental expérimental Alicem pour accéder à son espace numérique personnalisé. Cela peut aussi permettre d'identifier une personne, en comparant cette fois son image avec les photos stockées dans une base de données, par exemple un portique de sécurité pour contrôler l'accès à une entreprise. L'usage le plus poussé consisterait à utiliser des images de vidéosurveillance pour repérer quelqu'un dans une foule. C'est ce que Valérie Pécresse, par exemple, aimerait tester dans le métro parisien. Aujourd'hui, le cadre légal européen est très strict et ne permet pas cela. Ajoutons que c'est aussi l'aspect qui pose le plus de problèmes de sécurité, de biais, racistes par exemple, et d'enjeux en termes de surveillance et de vie privée. C'est dans ce contexte que le secrétaire d'État au numérique a annoncé en décembre vouloir faire des expérimentations. Pour les industriels qui, eux, développent ces technologies, l'enjeu est au moins double. D'abord, s'insérer dans un nouveau marché. Selon certaines études, il pourrait représenter dans le monde 7 milliards de dollars d'ici 2024. C'est aussi avoir accès à des bases de données les plus larges possibles, car c'est cela qui permet d'entraîner les intelligences artificielles à mieux reconnaître les images. En France, parmi les principales entreprises sur ce terrain, citons Thales et Idemia. Face au développement de la reconnaissance faciale, il y a clairement aujourd'hui deux manières de poser le débat. Ceux pour qui il y aurait, pour dire vite, des bons et des mauvais usages, c'est ce que dit en substance le secrétaire d'État au numérique, Cédric Haut.
Il y a des cas d'usage de la reconnaissance faciale qui n'ont rien à voir. Est-ce qu'on doit utiliser la reconnaissance faciale pour entrer dans les lycées, c'est-à-dire pour des mineurs? Est-ce qu'on doit utiliser la reconnaissance faciale pour vous authentifier, déverrouiller votre téléphone ou retirer un colis? Ça me semble poser moins de problèmes dès lors que c'est encadré. Est-ce qu'on doit utiliser la reconnaissance faciale
pour services publics,
aller chercher des terroristes dans la foule ou aller chercher une personne âgée qui s'est perdue? Le débat se pose. Je n'ai aujourd'hui, à titre personnel, pas d'avis arrêté.
Les industriels travaillent, eux, sur l'acceptabilité de la technologie par le grand public. Pour cela, ils s'efforcent d'améliorer les technologies et leur sécurisation, d'éviter les erreurs et biais, mais aussi de promouvoir un encadrement utilisé comme une manière de défendre des usages commerciaux dits éthiques quand la généralisation de la reconnaissance faciale serait-elle inéluctable. La CNIL, gendarme de la vie privée, rappelle néanmoins les risques qu'il y aurait aussi à constituer des bases de données biométriques. On peut changer un mot de passe volé, mais pas son visage. Face à cela, dans la société civile, de nombreux chercheurs ou associations réclament, eux, une interdiction de cette technologie dans son ensemble. Ils soulignent l'insuffisance de garanties démocratiques et le risque d'instaurer une surveillance à grande échelle. Ils rappellent que cela n'a rien d'inéluctable. Bien sûr, déverrouiller son téléphone, ce n'est pas surveiller toute une population, ce n'est pas pareil. Mais pour beaucoup d'observateurs, via des usages commerciaux et récréatifs, comme payer avec son téléphone ou utiliser les filtres Instagram, nous nous habituons à voir nos données utilisées et à considérer la reconnaissance faciale comme familière, non menaçante et même nécessaire à la vie au XXIe siècle. Autrement dit, présenter des outils comme neutres et pratiques masquerait que cette technologie vient modifier profondément nos conceptions de la vie privée et des libertés. Faut-il autoriser la reconnaissance faciale peut-on garantir la protection des données biométriques? Nos libertés fondamentales sont-elles menacées? C'est donc un débat à la hauteur de ces questions qu'il s'agit d'avoir aujourd'hui.
Merci à vous Catherine Pétillon. La météo de l'après-midi sur le Languedoc-Roussillon, le sud-ouest de PACA et la basse vallée du Rhône, temps couvert et de faibles pluies à l'ouest de la Bretagne et le Cotentin jusqu'à la Vendée, des averses fréquentes, tout comme à l'ouest de l'Aquitaine. Sur la Corse, éclaircie en vue, ailleurs temps plus sec. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue, à la technique Adèle Caglard.